Bonjour à tous, merci d'être venus. On va finir un peu la causalité aujourd'hui, avant de progresser à parler un peu de l'échafaudage combinatoire. Comme aperçu, ce que nous avons fait l'autre fois, c'était introduire un peu l'idée d'un sommaire causal d'un événement d'intérêt. Si vous produisez avec une simulation de kappa, une longue trace, une longue trajectoire des événements qui peuvent produire un événement d'intérêt, par exemple l'activation d'un facteur de transcription ou l'assemblage d'une machine. La question est quels étaient les événements qui étaient nécessaires pour arriver dans cette particulière histoire aux événements d'intérêt. Parce que c'est un système qui est concurrent, alors les règles s'appliquent d'une façon indépendante quand elles peuvent. Le défi est de reconstruire la chaîne causale des événements qui a produit un particulier événement. Et cette chaîne ici, causale, ce n'est pas une chaîne, c'est un DAG, un graphe acyclique orienté, merci. Où une flèche signifie une relation de précédence, où un événement, ici, cet événement ici, doit se produire avant que cet événement ici puisse se produire. Et la même chose avec... Cet événement dépend des deux autres événements. C'est une structure de dépendance logique. Et on peut reconstruire cette structure de dépendance parce qu'on connaît les règles. Et les règles nous disent, les règles produisent les événements et ils nous permettent de calculer les dépendances entre les événements. Les événements ne sont pas des choses abstraites ici, ils sont produits par des règles que nous connaissons, qui ont une structure. Bien, mais le problème ici était que nous avons beaucoup de cycles, de boucles futiles où une certaine série des événements produit un état qui après se défait. Les événements, oui. Ces défauts, ils retournent dans un état qui est équivalent à un état qu'on a vu en avant, qui est équivalent pour ceux qui regardent l'événement d'intérêt. Il pourrait être un effet secondaire, mais l'effet secondaire n'a aucune importance pour l'effet d'intérêt. Et alors, il faut comprimer cette chaîne causale, cette histoire causale, pour seulement couvrir les événements qui étaient vraiment nécessaires. Parce que si vous avez deux agents, A et B, qui se lient, et après, le même agent se délie, et le même agent se lie encore une fois, comme il est souvent le cas dans la chimie, alors vous êtes retourné à un état que vous avez vu avant, et on pourrait également avoir oublié cette petite cycle. C'est-à-dire, on veut vraiment une histoire nécessaire, c'est une où à chaque moment on progresse, on approche l'événement d'intérêt. Et on fait ça par une compression, un algorithme de compression qui, à la fin, est l'application d'un SAT solver, parce qu'on peut traduire toute cette histoire causale dans des dépendances. Dans des propositions de satisfiabilité, et on peut utiliser un SAT solver pour comprimer cette histoire causale dans ce que nous appelons une story, une histoire qui c'est vraiment seulement c'est une histoire minimale qui est contenue dans l'histoire causale plus grande. Le processus de minimisation nous donne un account of, un compte rendu de ce qui était nécessaire. Ok, bien. Alors on peut répéter des simulations beaucoup de fois jusqu'ils produisent un événement d'intérêt, et on peut faire des statistiques. C'est possible de faire des statistiques sur cette histoire ici, mais pas sur cette histoire ici parce qu'ils sont trop. Ça c'est une histoire très petite. Mais si vous modélisez un système vraiment d'intérêt aux biologistes, cette histoire causale peut être des millions des événements. Alors vous ne trouverez jamais la même histoire deux fois, mais si vous comprimez, vous pouvez faire des statistiques, parce que c'est un objet qui est compact suffisamment pour faire des statistiques. Et vous pouvez, par exemple, trouver plusieurs d'histoires comprimées qui nous disent les différentes façons de produire un particulier événement. Okay. Nous avons discuté ça l'autre fois. On peut aussi... cette histoire, pour vous rappeler, ils nous montrent la dépendance causale, logique, entre les événements. Il n'y a plus de temps physical ici. C'est seulement un temps logique, si on veut. Les nœuds de ce graphe sont les règles qui ont produit l'événement. Et les flèches sont les relations de précédence. On peut, comme nous avons discuté la dernière fois, il y a une relation statique, non statistique, mais statique, entre les règles, qui est une relation d'influence, qui est une causalité potentielle, si on veut, pas réalisée. Ça, c'est causalité réalisée. Mais on peut, par exemple, déterminer que cette règle ici a une influence négative sur cette règle ici. Alors ça, vous pouvez commencer à donner une vue de comment des histoires pourraient se influencer l'un l'autre. Alors, si cet événement d'intérêt est produit par cette histoire ici et par cette histoire ici en parallèle, par exemple, alors cette histoire ici et cette histoire ici, ils ont une tendance de se inhibier l'un l'autre. Alors, c'est l'idée ici est d'essayer de découpler un peu la structure causale, l'architecture causale d'un système de l'architecture cinétique. Je crois que ça, c'est très important de comprendre, parce que si on veut avoir un rendre compte de comment je sors cette salle, alors il faut que je monte les escaliers, je vais à la porte, je presse le bouton de la porte, j'ouvre la porte et je sors. Cette séquence est une séquence qui est robuste à la vitesse avec laquelle je monte les escaliers ou la puissance avec laquelle j'ouvre la porte, etc. C'est pas vulnérable à un changement de cet paramètre. C'est quelque chose que j'aime appeler la causalité dure. Et il y a une autre, nous verrons dans un instant, il y a une causalité douce, qui est une causalité qui est dans laquelle un événement précède un autre événement, en part parce que le premier événement se produit plus vite, parce que c'est une race condition. Cet ordre des événements est plus vulnérable, évidemment, aux paramètres du système, au taux de réaction, à l'abondance, etc. Alors, c'est très utile, je crois, d'essayer à diviser, à distinguer entre la causalité dure et la causalité douce, et peut-être aussi, dans un point de vue évolutif, d'essayer de comprendre comment peut-être la causalité douce devient causalité dure. Et ça, un système de règles comme kappa est très, parce qu'il nous donne une possibilité de suivre un concept de causalité qui est effectif, qui est très intéressant. Il nous donne la possibilité de commencer à distinguer entre cette type de causalité. C'est très difficile de faire ça avec un système d'équation différentielle. Bien. Je continue avec une autre. Nous avons introduit à la fin de la leçon dernière un autre alternatif concept de la causalité qui est une causalité qui est définie par le contrefactuel. Dans cette causalité, l'idée de cette causalité, et peut-être si vous vous souvenez, est visualisée par cet exemple. Dans cet exemple, vous avez une balle rouge qui va dans un goal et s'il est laissé à soi-même. Ici, vous avez une interaction entre une balle verte et une balle rouge. Et dans ce cas, la question est, est-ce que l'interaction entre la balle verte et la balle rouge est une cause de la balle rouge, de l'entrée dans le goal de la balle rouge? Ça, c'est une question. Et pour répondre à cette question, c'est utile de contempler une autre situation, une situation où nous avons un obstacle. Maintenant, on met la même interaction entre verte et rouge et on peut se demander, se poser la même question. Et dans l'idée contrefactuelle de la causalité, dans le premier cas, ici, l'interaction entre la balle verte et la balle rouge n'est pas une cause. Mais dans ce cas ici, oui, parce que la définition contrefactuelle de la causalité nous dit que l'événement A cause l'événement B seulement si l'absence de A implique l'absence de B. Alors, je le dis en anglais parce que c'est un défi de la concordance de temps. A causes B if and only if had A not happened, B would not have happened. Mais ça, ce n'est pas une causalité dure vraiment, parce que c'est une causalité qui maintenant contient un élément du temps. Vous voyez ça ici, où vous avez un obstacle qui est cinétique. Et alors, dans certains cas, la balle rouge n'est pas dérangée par l'obstacle, mais quelquefois, elle touche l'obstacle, et alors l'interaction verte serait utile. Alors, ce n'est plus une causalité dure, c'est vraiment une question de probabilité maintenant et de cinétique. Mais c'est important parce que beaucoup de fois, parce que l'idée de la causalité ici est un peu... L'idée est peut-être... La causalité est seulement une étape vers un concept un peu plus vague qu'on pourrait formaliser. C'était le concept d'une explication. Qu'est-ce que c'est une explication? Qu'est-ce que ça veut dire expliquer un système? Et alors, beaucoup de fois, la causalité est un ingrédient, un élément d'une explication, mais ce n'est pas tout. Certainement pas la causalité que nous avons discutée jusqu'à maintenant, parce que cette causalité des histoires est une causalité positive, où la relation entre les événements est toujours une relation contributive, où un événement contribue à l'occurrence d'un autre événement, parce que l'événement contribue à satisfaire les conditions des événements qui suivent. Et alors, c'est toujours un élément positif, mais il peut être aussi qu'un événement A cause un événement C parce qu'il évite l'occurrence d'un événement B qui, si il s'était produit, aurait évité l'événement C. Et alors, c'est ça qu'on veut. Alors, il faut raisonner sur quelque chose qui ce n'est pas produit. C'est un peu comme je crois que Eric Smith dans un intervenant il y a quelques semaines il a mentionné Sherlock Holmes, l'histoire de Silver Blaze où le détective c'est où il discute avec le détective, l'officier de la police, et l'officier dit « Nous avons couvert tout, non, je crois. » Et Sherlock Holmes dit « Non, nous n'avons pas couvert tout parce que nous n'avons pas couvert le fait que le chien n'a pas aboyé. » Et le fait qu'il n'a pas aboyé, c'est une indication que c'était un indice. Un événement qui ne s'est pas produit peut être important pour expliquer une situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait exactement ce que l'idée contrefactuelle suggère, c'est-à-dire nous avons cette séquence des événements et nous produisons maintenant l'histoire. Et l'histoire, ce sont tous les événements et leur, et leur relation de précédence. Et dans notre cas, nous sommes intéressés à la balle rouge à entrer dans le goal. Et l'histoire classique de laquelle nous avons parlé avant, c'est exactement cette ici où rouge se bouge et entre le goal. Il n'y a rien, l'histoire classique que nous avons discuté juste avant, ne dit rien du vert, parce que les événements de déplacement de vert et de vert déplaçant l'obstacle n'ont aucune, au niveau de règles, si on veut, ont aucune dépendance. Alors l'histoire classique complètement ignore le fait que l'interaction avec le vert était, dans ce cas, actuellement essentielle pour l'événement. Alors que ce qu'on fait pour découvrir ça, on fait un expériment, une expérience contrefactuelle. On invoque, alors ça c'est l'histoire factuelle, on invoque la maison Super Counterfax, que c'est quelqu'un qui maintenant bloque la balle verte d'interagir. Alors, on ne observe plus cette petite séquence des événements. On observe seulement que rouge se bouge et n'entre pas dans le goal. Elle n'entre plus dans le goal parce que cette histoire ici a été évitée. Elle ne s'est produite plus parce que nous avons bloqué cet événement ici. Alors, nous avons fait une intervention chirurgicale, on dit ? Chirurgical, précis, d'éliminer exactement un événement. Okay. Et il n'y a pas d'histoire ici, parce que rouge, l'événement d'intérêt est rouge qui entre dans le goal, il ne se produit pas. Mais maintenant, nous pouvons faire un merge, une fusion entre les deux expériences. L'expérience factuelle, qui c'est le noir, et l'expérience contrefactuelle. Et maintenant, on peut faire une analyse qui proche à celui que nous avons fait avec les histoires normales, mais maintenant, on fait une comparaison. On essaie de découvrir les relations de précédence ou des inhibitions. Les relations de précédence sont toujours des relations entre des événements dans l'histoire factuelle ou dans l'histoire contrefactuelle, mais les dépendances inhibitives, les dépendances négatives sont toujours des dépendances entre les événements qui se sont produits dans l'histoire factuelle et l'histoire contrefactuelle, ou vice-versa. Alors, les négatifs sont toujours des relations entre des événements dans l'histoire factuelle et contrefactuelle. Les positifs sont toujours entre l'histoire factuelle ou l'histoire contrefactuelle. Et il y a un théorème où on pourrait dire toujours le fait que c'est un événement ici, l'absence de cet événement ici, était important causalement pour obtenir l'événement désiré, que cette absence est toujours liée par un nombre pair, c'est-à-dire even, pair, de relations négatives. Toujours une relation négative et une relation entre un événement qui est dans l'histoire factuelle et un événement dans l'histoire contrefactuelle, ou un événement contrefactuel et un événement factuel. Je vous donne un autre exemple, peut-être. Et maintenant, ça enlarge un peu le concept de l'explication, parce que maintenant, nous avons une explication meilleure de comment rouge est entré dans le goal, parce que nous savons maintenant que le mouvement, le déplacement de vert était important. OK, et ça, c'est un exemple très, très lié à ce que j'ai à l'exemple informel que je vous ai donné, mais un peu plus biochimique, si vous voulez. Alors, nous avons il faut dire que, comme j'ai dit dans mes titres, ça, c'est tout un travail de Jonathan Laurent, qui était un étudiant. Il est à CMU maintenant, à Carnegie Mellon. Il était un étudiant de Jérôme Ferré, à Lens, ici à Paris. Tout ce que nous avons appris dans cette cours, c'est tout fait ici à Paris, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de particulier avec Paris où toutes les choses intéressantes semblent de se produire. Eh bien, Nous avons ici des règles, une règle qui dit nous avons une kinase qui peut être phosphorylée, kinase qui peut être phosphorylée simplement spontanément dans cette petite modèle de simplement d'illustration. Nous avons une règle de liaison entre la kinase et le substrat qui ne observe pas l'état de la kinase. Peu importe l'état de site X. Et nous avons une règle, et ça c'est important, nous avons deux règles de déliaison. Une règle, c'est un exemple d'un raffinement d'une règle. C'est la règle de déliaison de l'I K de S, mais il y a deux cas. Le cas où X est phosphorylisé, ou la phosphorylée, et le cas où la kinase K est phosphorylée. Et dans le cas où elle est phosphorylée, le taux de réaction est beaucoup plus bas. C'est-à-dire, si la kinase est phosphorylée, elle est plus sticky. Elle est plus coulante. Elle reste attachée au substrat pour plus longtemps. Mais si la kinase n'est pas phosphorylée, elle délie du substrat beaucoup plus vite. Alors c'est un peu comme notre balle verte, c'est-à-dire que c'est la phosphorylisation de la kinase qui évite que la kinase se délie trop rapidement. De substrat, et alors peut phosphoryler le substrat, par exemple. Et si vous imaginez une trajectoire, par exemple, où on a une liaison, une déliaison, une phosphorylisation de la kinase, une liaison entre la kinase et le substrat, et maintenant phosphorylation du substrat P, qui est l'événement d'intérêt. Et ça serait l'histoire comprimée que nous avons discutée en avant. Mais ce n'est pas une explanation vraiment très satisfaisante de l'événement, parce que clairement, le fait que la kinase était phosphorylée n'apparaît pas dans cette histoire, mais c'était essentiel. Essentiel. C'est pas dur, c'est douce. Il était avec grande probabilité, il était important que la kinase était phosphorylisée, parce que ça aurait évité que le substrat se délie de la kinase très vite, très rapidement. Et dans ce cas, nous n'aurons pas observé la phosphorylisation du substrat. Et ça, c'est pas contenu dans cette histoire traditionnelle. Ça, c'est, en fait, si on élimine cet événement ici, alors on aurait très, très, avec grande probabilité, observé une déliaison immédiate du substrat de la kinase, et nous n'aurons pas observé la phosphorylation. Et on fait exactement la même analyse comme dans notre cas de balle rouge et balle verte. Vous pouvez regarder ça peut-être sur les diapos en ligne pour réfléchir un peu plus, avec plus de temps, sur ce cas. Mais c'est exactement la même chose. L'influence, j'explique ici un peu plus en détail qu'est-ce que c'est une influence négative. L'influence négative, essentiellement, c'est l'identification du dernier événement dans une trajectoire factuelle. Ici, tous les événements qui sont noirs sont dans la trajectoire, dans l'histoire factuelle. L'événement qui est cerclé par le rouge, et c'est un événement qui est uniquement dans la trace contrefactuelle, et les événements qui sont en caractère gras sont des événements les événements qui sont gras sont uniquement dans la factuelle, ceux qui sont noirs sont des événements qui se produisent en tous les deux des trajectoires, et le rouge seulement dans la contrefactuelle. Et une influence négative, une influence préventative, si on veut, et l'identification du dernier événement dans la dans la trace factuelle qui a mis l'État, qui a détruit, si on veut, un État qui aurait été nécessaire pour un événement dans la trace contrefactuelle. C'est-à-dire, Pékin a changé l'État d'une façon qui maintenant prévient l'occurrence de la déliaison. Et ça entoure le fait que la déliaison ne s'est pas produite dans la trace factuelle, prévient. S'il serait produit dans la trace factuelle, il aurait prévenu la phosphorylation. Alors, c'est la même chose comme les balles. Bien, alors comment on fait ça? Il faut formaliser un peu comment est-ce qu'on met en pratique cette idée de l'analyse contrefactuelle. Et ça, c'est un problème intéressant parce que c'est un peu la question, qu'est-ce que ça veut dire? Les expérimentalistes sont complètement à aise avec ce raisonnement. Parce que si vous faites des expériences en biologie, en labo, c'est ça que vous pensez tout le jour, parce que c'est l'idée des expériences contrôlées. Okay? Un counterfactual est une expérience contrôlée, parce que vous détruisez un gène, par exemple, et vous comparez une histoire factuelle, c'est la bactérie avec le gène et la bactérie sans le gène. C'est exactement la même chose. Vous produisez une expérience contrefactuelle, une trajectoire contrefactuelle, et vous comparez. Mais comment on fait ça? Comment on formalise ça si vous faites ça sur un ordinateur? Parce que dans un ordinateur, il faut être précis, et parce que dans un ordinateur, à différence de la vie dans le labo, vous pouvez vraiment en principe, vous pouvez vraiment éliminer des événements singuliers. C'est pas très, très c'est pas possible vraiment aujourd'hui dans la biologie, parce que vous ne pouvez pas prévenir l'interaction de ce particulier facteur de transcription Bob avec ce particulier facteur de kinase, parce que c'est impossible de vraiment suivre les individus. Mais c'est exactement ce qu'on peut faire dans l'ordinateur. Alors, le problème est bien connu. David Lewis qui a réintroduit, parce que c'était déjà David Hume qui a parlé des contrefactuels, mais c'était David Lewis qui les a portés de retour à notre attention. Et il dit, maintenant ça c'est vraiment un exercice de concordance de temps. Alors essayons. L'assertion que si kangourous n'avaient pas de queue, ils basculeraient, me semble de signifier quelque chose comme ça. Il dit que, et ça c'est important, que dans toute situation dans laquelle les kangourous n'ont pas de queue, et lesquelles les situations ressemblent la situation courante actuelle le plus possible, et le plus possible que kangourous n'ayant pas de queue le permettent, les kangourous basculaient. Le danger ici est d'avoir une falaise métaphysique, parce que qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire il faut comparer des mondes possibles, parce que les kangourous peuvent n'avoir pas de queue dans un monde dans lequel il n'y a pas de gravitation, par exemple. Alors, la queue ne sert à rien. Alors, il faut vraiment comparer notre monde actuel qui a été modifié maintenant contrefactuellement par une intervention. Il faut comparer cette intervention parce que faire une intervention, ça veut dire peut-être il faut changer le monde un peu plus nécessairement pour faire cette modification. Mais alors, il faut comparer les mondes qui sont les plus proches au monde actuel, les mondes à modifier qui sont plus proches au monde actuel. Et ça, c'est un peu, ça semble être un problème philosophique, mais ce n'est vraiment pas un problème philosophique, je crois, parce que c'est un grand problème philosophique si on peut en faire un grand problème philosophique. Mais dans notre particulière situation, c'est un problème qui est résolu très facilement. Le problème ici est le suivant. Alors, vous avez une trace ici, la trace factuelle, ça, ce sont les événements, et vous voulez éliminer ce particulier événement vert. Alors, Lewis essentiellement dit, et ce n'est pas seulement Lewis, parce que toute cette idée était mise en pratique par Judea Pearl dans son livre Causalité, et par Halpern. Halpern et Pearl, c'est la référence, mais ici, c'est un peu plus dans un contexte combinatoire. Vous voulez, maintenant, la question ici est qu'est-ce qu'était l'impact causal de l'événement vert dans la trace actuelle? Si vous simulez jusqu'ici, enlevez l'événement vert, et après vous continuez à simuler, ça, c'est pas vraiment, ça, c'est pas la chose juste à faire. C'est pas la chose juste à faire parce que dans ce cas, vous me dites quelque chose général sur l'impact de l'événement vert. Mais la question ici n'est pas qu'est-ce que c'est l'impact de l'événement vert en général. La question ici, c'est qu'est-ce que c'était l'impact de l'événement vert dans la particulière histoire que nous avons observée. C'est ça le problème. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie on essaie de transférer le plus possible les aspects aléatoires ou les aspects aléatoires sur lesquels sont basés les aspects aléatoires de l'histoire actuelle dans l'histoire. Il faut conditionner, on dit ça en probabilité, il faut conditionner sur la randomness. Qu'est-ce que tu dis? Il faut conditionner. You have to condition on the randomness of the actual history. Il faut conditionner sur le caractère aléatoire de l'histoire actuelle. Et on fait ça simplement, c'est-à-dire il faut refaire une simulation qui, après enlever l'événement vert, probabilistiquement la plus proche à la trace actuelle. Et on fait ça simplement, il y a un argument formal, mathématique, pour formaliser ça. Je vous dis seulement le résultat, l'algorithme, l'opération que vous faites, et parce que ça serait trop long vraiment à expliquer, mais l'idée est peut-être que vous pouvez avoir une intuition comme ça se vient à passer. Ça, c'est notre trajectoire factuelle. Opérationnellement, on arrive juste ici, c'est la même simulation, il ne faut pas refaire la simulation, on prend la simulation d'ici, et on enlève maintenant un événement, l'événement qui s'est produit à temps T. Maintenant, le système... Si vous vous souvenez, dans notre cycle de la chaîne de Markov, de CTMC, de la simulation, l'activité du système s'est changée parce que nous avons enlevé un événement. Et avec cette activité qui s'est changée, on base l'activité, la différence d'activité entre le système factuel et le système contrefactuel, vous calculez la probabilité, le temps jusqu'au prochain événement. Okay, c'est une poisson distribuée, c'est un poisson process, mais avec l'activité qui est la différence, l'activité qui est différente entre l'histoire actuelle et la contrefactuelle. Vous produisez un delta T jusqu'au prochain événement. Maintenant, il y a des différents cas où le prochain événement, si le prochain événement qui vous c'est le temps du prochain événement. Et plutôt du prochain événement dans la trajectoire factuelle, vous exécutez un événement dans la simulation contrefactuelle. Appliquez une règle comme on a discuté quelques leçons il y a. Si le prochain Yeah. Si le prochain, si l'événement prochain doit se produire après un événement, l'événement prochain dans l'histoire factuelle, vous copiez l'événement de l'histoire factuelle dans la trace contrefactuelle, si ça est possible. Si ça est possible, ça signifie si on peut toujours faire ça, parce que peut-être le changement du système de notre situation contrefactuelle ne permet plus faire ça. Et dans ce cas, vous augmentez le temps et vous ne faites rien. OK? Alors ça, c'est tout ce qu'on fait. C'est très simple. C'est-à-dire, de cette façon, vous copiez les plus événements possibles de la situation de l'histoire factuelle dans votre simulation contrefactuelle. Et de cette façon, vous êtes mathématiquement garanti d'être probabilistiquement le plus proche possible à l'histoire factuelle, mais même si vous avez changé vous avez fait cette intervention. Maintenant, ça c'est théoriquement, peut-être conceptuellement intéressant, mais en pratique, qu'est-ce qui se passe en pratique? En pratique, nous ne sommes pas vraiment intéressés dans une intervention si petite. Où on élimine un seul événement. On est intéressé plus à l'élimination d'une règle, par exemple. C'est-à-dire, nous ne sommes pas intéressés toujours à éviter ou à éliminer l'événement dans lequel un particulier kinase s'est lié à un particulier substrat, que c'est un événement. Nous sommes plus intéressés à une kinase qui ne se peut plus lier au substrat, tout court. Et ça, c'est beaucoup des événements, où l'élimination d'une règle, c'est tout un ensemble des événements qui on élimine si on élimine une règle. Et maintenant, maintenant il y a beaucoup de trous qu'il faut mettre dans la trace factuelle. Et à ce moment-là, la divergence entre la trace contrefactuelle et la trace factuelle, c'est si grande que vous presque jamais plus héritez des événements, vous jamais plus transférez les événements de l'histoire factuelle dans l'histoire contrefactuelle. Alors c'est presque comme resimuler le système de nouveau, ayant éliminé les événements qu'on veut éliminer. Alors c'est-à-dire c'est plus une digression théorique que nous avons fait maintenant. Mais en pratique, on peut vraiment... Si vos interventions sont grandes, c'est-à-dire s'ils couvrent beaucoup des événements, alors c'est pratiquement... Vous êtes OK à resimuler le système sans essayer d'être trop proche probabilistiquement parce que vous... Ça n'a aucun import. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le labo, parce que si vous éliminez un gène, vous n'éliminez pas un particulier événement, vous éliminez beaucoup d'événements. Alors, c'est juste que les expérimentalistes peuvent simplement comparer un E. coli avec un autre E. coli dans lequel on a éliminé le gène. Ce n'est pas le même E. coli dans lequel vous avez éliminé le gène. C'est pour ça. OK. Bien. Tout ce que je veux dire, ça c'est un exemple où maintenant nous avons une causalité qui est plus douce de la causalité positive, qui était une causalité dure, parce que nous avons une dépendance de taux de réaction, de vélocité. Et ça c'est un exemple pour illustrer peut-être ce concept. Encore une fois, de la causalité douce et la causalité dure. Ça, c'est un exemple que nous avons rencontré un peu en avant et nous rencontrons dans les dernières 30 minutes, sûrement, encore. C'est un exemple où nous avons un échafaudage S qui se lie à deux ligands. A et B, de façon indépendante, c'est-à-dire que A se lie à S sans porter de peu importe le si B est lié à S ou non, parce que la règle ne mentionne pas l'état du autre site de liaison. Et alors vous avez essentiellement deux pas de trajectoire pour assembler le complexe ASB. C'est où vous liez A avant et après B, et vous arrivez ici où peut-être vous liez B avant et après vous liez A, et vous arrivez au même but. Dans ce cas, vous avez une compétition entre ces deux trajectoires, si vous voulez, et si vous calculez, ça c'est une trajectoire kappa, si vous calculez l'abondance de ASB en équilibre en dépendance en fonction de l'abondance de S, vous trouvez cette relation ici, où quand vous avez seulement peu de S, vous facilitez l'encontre entre A et B, parce que A et B se lient au même S. Si vous avez trop de S, vous empêchez l'encontre entre A et B parce qu'un A et un B se lient sur des S différentes. Et c'est une compétition. Alors, si vous avez beaucoup de S, vous formez ça et vous formez ça, mais ces deux complexes ne peuvent pas s'interagir. Et alors, tout ça. Bien, alors on peut penser comment est-ce qu'on pourrait éviter ça. On pourrait éviter ça, ou on veut par exemple atteindre ce sommet et après être constante sur ce sommet, si elle est possible, éviter le collapse. Et on peut faire ça avec la causalité douce. La causalité douce, c'est-à-dire, vous commencez avec beaucoup de A dans le système. Parce que si vous avez une condition initiale où il y a beaucoup de A, beaucoup plus de A de B, alors le S qu'un B rencontre aura déjà un A lié. Et vous avez d'une manière douce, vous avez éliminé l'autre trajectoire. Évidemment, ça, ça fonctionne seulement jusqu'à un moment où S commence à excéder l'abondance de A. Ça, c'est la causalité dure. La causalité dure, c'est faire une dépendance mécanistique, c'est-à-dire A se lie à S et elle modifie S sur le site où S se lie à B, et seulement si cette site est modifié, B peut se lier. Alors ça, c'est vraiment, on élimine pratiquement l'histoire alternative. Il faut, pour assembler cette structure, il faut aller par cette voie, et à ce moment-là, vous avez éliminé tous les faits. Ça, c'est la causalité dure. OK ? Bien. Alors, on arrive un peu à l'échafaudage, un peu plus combinatoire, mais c'est un peu dans la même philosophie. Le chapitre auquel nous tournons maintenant est un peu à la comment on dit un peu et un peu c'est inspiré par kappa, mais on ne finit pas avec kappa. C'est dans une situation dans laquelle nous sommes maintenant dans une particulière recherche dans mon groupe. On essaie de faire un modèle, peut-être le modèle plus mécanistique, plus détaillé qu'on a jamais fait sur un particulier système de signalisation, le système WNT. Et c'est un système qui est un système qui contrôle le développement embryonal, et comme tous les systèmes qui font ça, il est aussi impliqué dans le cancer, etc. Mais c'est un système dans lequel on a, comme toujours dans la transmission, dans le traitement de l'information, dans les réseaux des interactions entre les protéines, on a beaucoup de joueurs qui changent mutuellement leur état et qui peuvent se lier. Mais dans le cas de Wnt, et je ne veux pas aller trop dans les détails parce que ce sont des différentes leçons qu'on peut dédier à cette système. Mais l'idée que je veux vous transmettre, est simplement que si on fait un modèle de ces façons-là, où maintenant CAP est vraiment utilisé de façon manuelle pour créer un inventaire de connaissances, où vous traduisez, vous lisez des centaines de papiers et vous traduisez des éléments mécanistiques que sont décrits dans la littérature. Vous les traduisez dans des règles et vous finissez avec, à la fin, quelque chose comme... ce n'est pas beaucoup de règles, c'est ce 31 types de règles, mais le problème ici est que les règles doivent être raffinées parce que le taux de réaction d'une règle dépend, par exemple, de numéro de phosphorylation qu'une protéine a, etc. Alors, il y a beaucoup de raffinements, et si on inclut tous les raffinements cinétiques, on arrive à 1300 règles. Alors ça, c'est un modèle très grand. Il y a seulement 18 types d'agents. Et alors le problème est de qu'est-ce qu'on fait pour comprendre certains modèles? Parce que vous avez maintenant un modèle, vous avez, comme j'ai dit beaucoup de fois, vous avez remplacé un monde que vous ne comprenez pas avec un modèle que vous ne comprenez pas. Et alors, qu'est-ce que mais c'est ça, le point de CAP. Hein. Il n'y a pas un point de CAP, parce que CAP peut, comme je vous ai dit quelques leçons avant, peut être utilisé comme un système très, très, très pratique pour poursuivre des questions dans la physique statistique, c'est-à-dire on peut faire des modèles petits, si on veut, mais il peut également servir à faire des modèles très grands, qui sont vraiment des inventoires de connaissances. Et comme vous avez eu l'occasion d'écouter Jean Cribin il y a quelques semaines, qui nous a raconté sur ses efforts de construire un système logique pour nous aider de façon automatique à fusionner des différentes connaissances et de compiler cette connaissance dans des règles. Ça, c'est un projet extrêmement intéressant, mais c'est très futuristique. Mais ce serait absolument utile d'avoir un peu un assistant automatique pour la modélisation, qui est basé vraiment sur des aspects formels. Mais toujours, alors il faut approcher un modèle complexe exactement comme un expérimentaliste. Vous avez un labo et vous avez un animal. C'est un animal dans votre ordinateur, mais il faut avoir des instruments pour l'analyse. Et beaucoup des instruments existent aujourd'hui, mais ils ne sont pas encore intégrés d'une façon que sont utilisables pour le non geek. C'est un peu la situation que vous avez eue dans les labos quand il n'y avait pas de kits que vous pouvez acheter. Et alors il faut faire tout vous-même. Et ça, c'est un peu la condition aujourd'hui. Mais je crois que dans cette question des générations, qu'on arrive à trouver les meilleures pratiques et des instruments pour pouvoir analyser d'une façon semi-empirique dans votre ordinateur des modèles complexes. Mais j'ai produit ça, ça c'est pas... Oui, ça, c'est un modèle grand. Alors, comment est-ce que vous comprenez une chose comme ça? L'idée, une autre approche, évidemment, qu'on espère qu'avec ces instruments, quand vous analysez un modèle complexe, que vous êtes... que vous vous mettez dans une position de comprendre, d'avoir une compréhension initiale de peut-être qu'est-ce que c'est l'essentiel, s'il y en a, d'un particulier système. Alors, l'idée ici est de, un peu comme Wittgenstein's ladder, de monter une échelle de compréhension et après, on se disfait du modèle Kappa parce qu'on a compris peut-être un noyau essentiel d'un système et on peut l'approcher avec la modélisation un peu plus traditionnelle et des traitements de physique statistique. Et c'est ce que nous faisons maintenant un peu. Mais pour vous donner une idée du problème qu'on rencontre, qui je crois est un aspect essentiel de cette système WNT, et je crois aussi de beaucoup d'autres systèmes de signalisation, est le fait, l'observation, que presque tous les échafauds, presque tous les échafaudages peuvent se polymériser. Alors, ça, c'est une situation extrêmement intéressante, parce que ici, vous avez une situation où ça, ce sont les complexes qu'on a à faire avec ce modèle. Ce modèle vous produit des molécules, si vous voulez, qui sont grands comme ça, où chaque point est une protéine. Ce sont des agrégations de protéines dans ce système qui ne sont pas aléatoires, ce sont des agrégations qui sont prévues par la nature, qui sont fonctionnelles, où les échafaudages font des grandes polymères. Et ça porte à la question... Qu'est-ce que c'est l'impact de la polymérisation des échafaudages? Alors, nous avons vu qu'un échafaudage est un acteur, un joueur dans un système qui facilite l'encontre entre des autres protéines qui doivent interagir. Par exemple, dans le système WNT, il y a une protéine particulière, la bêta-catinine, qui est un facteur de transcription qui est modifié en différentes manières, mais elle ne se lie jamais aux protéines qui la modifient. Les contacts sont toujours indirects entre l'échafaudage. Évidemment, quand une kinase phosphorylise la bêta-catinine, il y a un contact, mais ce n'est pas un contact de liaison, c'est un contact de réaction, de modification. Et aussi, nous voyons que ça, c'est une représentation. Chaque rectangle ici est une molécule dans le système. La dimension, la surface de cet rectangle vous indique la taille. Alors, et les rectangles qui sont dedans le rectangle, les rectangles de différentes couleurs signifient les différentes protéines qui sont composants de ce grand complexe. Alors ça, c'est le complexe le plus grand, ça, c'est le deuxième plus grand, etc. Mais ce que je veux vous... L'attention est après une signalisation, après un signal, le signal WNT, il y a un réarrangement de cette structure agrégée. La taille est plus ou moins la même, mais la composition complètement change. Alors, ces polymères sont vraiment très importants. Et en fait, des mutations dans les domaines qui sont responsables pour la polymérisation sont très souvent liées au cancer. Alors, bien, il y a un concept intéressant ici que je crois nous nous rencontrerons dans le futur plus et plus. C'est un concept que j'aime, que c'est qui a été décrit dans une perspective de Meyer. C'est l'idée que si vous avez beaucoup de fois dans une cellule, vous avez de grandes machines, de grandes agrégations de protéines, Mais c'est l'idée que pour qu'une agrégation grande puisse être fonctionnelle, il n'est pas nécessaire qu'elle est complètement construite, qu'elle est complètement assemblée. Parce que ça, peu de fois, ça serait le cas. Mais que plutôt, vous avez un ensemble statistique des assemblages partiels. Et que c'est l'ensemble statistique de assemblage partiel qui se comporte comme si vous auriez un assemblage complet. C'est un peu l'idée que nous avons aussi rencontrée dans la deuxième leçon, je crois, de la quasi-species dans les virus, où on n'a jamais seulement une séquence, une espèce de virus, n'est-ce pas seulement une seule séquence, mais c'est une séquence avec un nuage des autres séquences qui sont produites par des mutations. Ça, c'est un peu il n'y a pas de mutation ici, mais c'est une idée similaire où vous n'avez... Et c'est, évidemment, il doit être le cas le moment que vous avez la polymérisation, parce que quand vous avez une polymérisation, vous n'avez plus de stoichiométrie, parce qu'on ne peut pas dire que le complexe fonctionnel ici est un qui contient exactement 5 copies d'une particulière protéine, parce que si la protéine polymérise, il y a une distribution de longueur. Alors il n'y a plus le complexe. Toute l'idée d'un complexe platonique stoichiométrique s'en va. Et il faut vraiment traiter l'ensemble. Et je crois que c'est une idée intéressante. Alors, on a fait un petit modèle pour vous illustrer un peu que se passe. Un petit problème abstrait, une vignette, si on veut. Mais c'est important de tenir à l'esprit que c'est une vignette qui vraiment était inspirée par le modèle Kappa. Ce n'était pas une chose que nous avons pensé avant de ça. On pourrait avoir le pensé en avant, mais ça, c'est après le fait. Mais c'est vraiment la compréhension que le modèle Kappa nous a donnée, que nous a poussé à contempler un modèle de ce type-là. Alors, nous avons un petit monde où nous avons un échafaudage S. Cet échafaudage S peut se polymériser. Il se peut polymériser d'une façon orientée, c'est seulement pour éviter des symétries, mais ce n'est pas un problème d'inclure les symétries aussi. Et chaque un élément d'un polymère, on appelle ça un protomère. Okay. Un protomère peut lier un A et un B. Le A pourrait être un enzyme, et le B est le substrat, ou deux agents qui doivent interagir. Et qui peuvent seulement interagir s'ils sont liés sur le même complexe. Alors, ça c'est un protomère, ça c'est un polymère de longueur de taille 6. Ça, c'est un autre système, parce que ça c'est un système d'échafaudage que nous avons vu en avant. Ça c'est un échafaudage monovalent, parce que vous voyez qu'il ne peut pas polymériser. C'est exactement le petit système que nous avons vu en avant. On ne peut pas polymériser. Ça, c'est un échafaudage multivalent, c'est-à-dire un échafaudage qui est un seul agent qui a, par exemple, dans ce cas, trois sites de liaison pour A et trois sites de liaison pour B. Et j'introduis ces différents types d'échafaudage parce que ce serait intéressant de les comparer. OK? Alors... Ça seulement pour la nomenclature. Et l'idée est que sur toutes les A qui sont liées sur le même complexe peuvent interagir avec tous les S qui sont liés sur le même complexe. Alors dans ce cas, nous appelons ça le potentiel catalytique d'un complexe. Alors, l'idée ici, c'est la majeure supposition, assumption, l'hypothèse que nous faisons ici, c'est une hypothèse assez, je crois, limitée, mais ce qu'on peut faire au moment, et c'est qu'avant d'une réaction entre un A et un S, il y a un équilibre de cette structure ici. Okay? Alors, vous imaginez que vous avez un système où vous avez une distribution de longueur, une distribution des tailles de cette complexe. Chaque taille est occupée par certains nombres de A et de S, dépendant à l'abondance de A et de S et dépendant de l'affinité de liaison. Ça, ce sont tous des paramètres. Et si nous prenons en particulier K ici, alors le A peut agir un produit, une conversion d'un S dans un produit P se fait dans ce cas avec une taux qui est 12 fois plus vite, plus rapide que si nous n'avons pas un échafaudage polymérique, parce que pour convertir un S, nous avons 12 possibilités. Ok, ça c'est l'idée de base. Alors dans cette cadre, un échafaudage ressemble un peu à un compartiment, parce qu'un compartiment fait la même chose. Un compartiment augmente la concentration locale des agents qui doivent interagir, et alors il facilite, il fait tout plus rapide. Mais dans ce cas, il serait beaucoup plus difficile de construire un vésicule ou un compartiment. Cette technologie beaucoup moléculaire, beaucoup plus sophistiquée, mais contrôler la polymérisation, ou le degré de polymérisation d'un échafaudage, comme ça, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez des on peut le réguler à travers l'affinité de polymérisation et le nombre de S dans le système. Alors, c'est beaucoup plus facile à réguler, mais il se comporte comme un compartiment. Okay? C'est ça, je crois, la relevance de tout ça. Alors, bon, ça, c'est le potentiel catalytique. Alors, par exemple, dans un système, ça, c'est peut-être un snapshot d'un système où vous avez différentes tailles de polymères, et cette polymère ici, par l'occupance qu'il a, contribue aux états avec un potentiel catalytique de 9. Celui-ci avec un potentiel catalytique de 1, ceci 0 parce qu'il n'y a pas un partenaire, ceci avec 1, ceci avec 4, etc. Vous sommez tous les potentiels catalytiques de chaque complexe pour avoir le potentiel catalytique de l'état du système, de ce particulier état du système. Okay? Alors la question est la suivante. C'est comme une généralisation de Michaelis-Menten, mais c'est une généralisation intéressante, je crois. Alors, dans Michaelis-Menten, où vous n'avez pas d'échafaudage, où l'enzyme et le substrat se lient directement, vous avez votre fonction de taux qui est notre hyperbole bien connue. Le A et le B sont en équilibre, vraiment en équilibre, où cette équilibration est beaucoup plus vite que la réaction catalytique. Alors on peut calculer cette taux exactement, parce que dans cette calculation, il n'y a rien de mauvais avec cette calculation. Le problème est seulement qu'il dépend de la concentration de B libre. Et c'est beaucoup mieux d'avoir une expression qui dépend seulement de paramètres que vous connaissez, c'est-à-dire la concentration totale de B, la concentration totale de A et les paramètres cinétiques comme les affinités. Alors ça, c'est élémentaire de calculer. C'est simplement l'équilibre de cette réaction ici. C'est facile à calculer. Et on retournera à cette forme, parce que c'est une forme intéressante. Et je n'ai pas réalisé la significance de cette forme jusqu'à après le fait. Bien, on veut faire exactement la même chose, mais maintenant pour un système où nous avons un échafaudage, et l'échafaudage peut se polymériser. Alors c'est la même chose, vous avez un état du système, et avec une certaine taux, vous produisez un produit. Qu'est-ce que c'est la loi qui nous donne le changement de produit, qui nous décrit la production de P Et c'est exactement le taux de réaction K4 de catalytique multiplié par le potentiel catalytique de ce système ici. Alors, il faut calculer le potentiel catalytique. Bien, comment on fait ça? Alors, en général, si vous avez... Alors, il y a deux fois pour approcher, deux façons pour approcher ça, et je crois qu'il faut que je suis un peu plus vite. Une approche où nous traitons le système comme un système continu, c'est-à-dire, évidemment, les tailles des nœuds complexes sont discrètes, parce que vous avez longueur 1, 2, 3, 4, 7, mais vous avez des concentrations, vous calculez avec les concentrations. Si vous calculez avec les concentrations, il n'y a pas de polymère plus grand, parce que les polymères, la longueur des polymères peut être infinie, parce que les concentrations sont des nombres réels. L'autre approche, c'est aussi une approche que nous avons faite, c'est une approche où vous avez vraiment des nombres de particules. Alors, vous avez un système discret, et alors, vous avez une taille maximale d'un complexe, parce que vous n'avez pas à avoir un polymère qui est plus grand du nombre de monomères, de protomères que vous avez dans le système. Ce sont deux traitements différents. Mais le traitement continu, c'est un traitement qui nous donne déjà quelques insights. Bien. Si vous avez un système en équilibre, qui est un système comme celui-ci que nous avons, où il se traite de faire des liaisons et des déliaisons, c'est seulement de formation de complexes. Alors, vous pouvez immédiatement écrire la concentration d'équilibre d'un complexe arbitraire, parce que ce serait le produit de l'énergie de ce complexe, l'exponentielle de l'énergie, c'était le produit des affinités, simplement parce que la différence énergétique entre deux complexes, seulement l'énergie dans ces complexes est toujours dans les liaisons. Et alors, c'est le produit de l'énergie, des affinités et des concentrations des composants du complexe. Chaque complexe a une certaine composition de composants, et vous multipliez la concentration en équilibre libre de ces composants à la puissance de nombre de occurrences dans le complexe. Alors, dans le cas d'une polymérisation seulement, c'est utile de regarder seulement la polymérisation pour un moment. Un polymère, la concentration en équilibre d'un polymère de longueur n est simplement, j'avais dit, le produit de l'énergie, de l'exponentielle de l'énergie. Et nous avons un n minus 1 lien. Alors, c'est sigma à la puissance de n minus 1. Sigma, c'est l'affinité, c'est l'exponentielle de l'énergie de la liaison entre deux protomères, multiplié par la concentration libre de échafaudage. C'est la concentration d'échafaudage libre à la puissance de n, parce qu'il y a n, c'est très, très facile à comprendre que ça doit être le cas, parce que si vous prenez, par exemple, la liaison entre A et B, dans AB, qu'est-ce que c'est la concentration de AB en équilibre? Ouais, c'est le produit de l'affinité, de la constante d'affinité par A et par B, mais A et B sont les concentrations de A et B libres. Et vous faites une récursion de cette façon pour un complexe arbitraire et vous arrivez exactement à cette idée. C'est straightforward. Alors, il y a une fonction qui est une fonction dans laquelle nous sommons surtout les complexes qui existent et leur concentration. C'est-à-dire, nous sommons, ça c'est la concentration du polymère de longueur n. Nous faisons une somme sur toutes les longueurs, et ça, c'est une somme sur toutes les choses qui existent dans le système. Évidemment, les mathématiciens entre vous connaissaient ça tout de suite comme une fonction génératrice. Et en fait, il y a une connexion avec des fonctions génératrices ici, mais nous n'allons pas là. Et cette fonction, c'est une somme géométrique. Et ça, c'est l'expression à laquelle on arrive. Si maintenant, vous... exactement comme vous faites avec les fonctions génératrices, si vous prenez la dérivée de W par rapport à S et multipliez par S, vous avez la concentration totale d'échafaudage. Parce que si vous faites une dérivée par rapport à S, vous descendez la puissance, que c'est le nombre de S dans un polymère, et après, multipliant avec cette S, vous corrigez le fait que vous avez décrémenté la puissance. Alors, vous avez essentiellement cette expression et N multiplié par cette terme ici, sommé sur tous les termes, et ça, c'est exactement le nombre de N qui existe, le nombre de S qui existe dans le système. Alors, vous avez une contrainte, ça, c'est la... ça vous donne une équation avec laquelle vous pouvez expliquement calculer le S, c'est-à-dire la concentration d'échafaudage libre dans le système. Une fois que vous avez ça, vous connaissez exactement les concentrations en équilibre des polymères. Okay? Ça, c'est très simple. C'est intéressant d'observer que cette fonction ici a une singularité. Et cette singularité signifie que si cette singularité peut être seulement atteinte si sigma est le produit sigma par S est 1. Si vous regardez si vous analysez cette expression, ça peut jamais être le cas jusqu'à sigma devenir infini. Mais si sigma est infini, c'est-à-dire c'est la puissance de polymérisation est infinie, alors vous avez une singularité parce que le système toutes les polymères de toute longueur ont la même concentration. Alors le système est une transition de phase. Cette transition de phase ne peut pas être, dans ce cas ici, quand vous avez des polymères linéaires, ça ne peut pas être produit avec une infinité finie. Mais si vous mettez le système dans un réacteur, dans un flow reactor, si vous pouvez imaginer le système dans une boîte où vous avez un réservoir de monomères, de protomères, et alors chaque fois qu'un protomère se lie, vous tenez la concentration de protomères constante. Ça, c'est un constant chemical potential. Si vous faites ça, vous pouvez, il n'y a pas un problème de fixer le S à chaque valeur que vous voulez, en particulier parce que le S est la concentration d'échafaudage libre. Ça, c'est une chose que vous pouvez contrôler expérimentalement. Alors, dans ce cas, rien ne vous prévient de choisir S 1 over sigma, c'est-à-dire de générer une singularité. Ça, c'est un système dans lequel vous avez le S est en concentration telle où il a une certaine affinité, il se lie à des autres, il commence à polymériser. Chaque fois qu'il polymérise, un nouveau S vous est donné de réservoir, et ça commence à peut produire une transition de phase. Ce n'est pas un problème. C'est un problème dans l'équilibre, mais pas au-dehors de l'équilibre. Bien. Ça, c'est essentiellement ce que j'ai dit. Mais retournons à l'équilibre maintenant. Alors, vous avez un système qui est en équilibre. La même calculation que je vous dis, on peut faire avec les ligands A et B pour calculer le potentiel catalytique de ce système. C'est simplement cette expression ici. Le problème avec cette expression, il n'y a pas de problème avec cette expression, c'est seulement que c'est très difficile à comprendre ce qu'il dit, parce qu'il vient aussi avec un système des équations qu'il faut résoudre pour obtenir S, la concentration d'échafaudage libre, A, la concentration de ligand A libre, et B, la concentration de ligand B libre, qui s'obtient exactement avec des équations comme ça. Mais ce sont des expressions très compliquées. Mais ce n'est pas un problème de résoudre ce système, particulièrement ce n'est pas un problème avec mathématiques. Nous aurons une expression beaucoup plus simple de ce qui se passe, mais regardons ce qui se passe phénoménologiquement. Avec cette expression, on peut au moins produire des courbes. Ce que vous voyez ici, c'est ce sont certains paramètres qui sont biologiquement très raisonnables. Ce que vous voyez ici, c'est exactement comme dans un Michaelis-Menten cas, le comportement du système qui se polymérise en fonction de la concentration de substrat. Et ça, ça veut dire simplement la concentration de B, par exemple. Et ça veut dire qu'il y a une saturation, exactement comme vous le voyez dans le Michaelis-Menten. Ça, c'est la référence Michaelis-Menten. Mais évidemment, si vous incrémentez ici la concentration d'échafaudage, c'est pas un problème de réguler le système, de surpasser Michaelis-Menten, tout autre étant le même. C'est pas un problème de surpasser Michaelis-Menten. Ça, c'est toute la surface du système dans lequel vous voyez, ça c'est le potentiel catalytique, ça c'est le nombre, la concentration de protomères, et ça c'est l'affinité. Et ce que vous voyez ici, c'est exactement l'effet prozone que nous avons discuté avant. N'importe quel système d'échafaudage vous contemplez, il a toujours, tous les systèmes d'échafaudage ont cette propriété que si la concentration d'échafaudage est bas, vous facilitez l'interaction entre les ligands. Si la concentration d'échafaudage est grande, vous empêchez l'interaction entre les ligandes, parce que vous créez beaucoup de différents échafaudages qui vont isoler un ligand de l'autre. C'est inévitable. Alors, vous voyez la même chose ici. Mais vous voyez aussi qu'il n'y a pas un prozone dans la direction de l'effet que j'ai décrit s'appelle l'effet prozone. C'est un nom historique qui vient de l'immunologie par un test. Mais si vous êtes intéressé, Wikipédia, vous trouvez l'effet prozone sur Wikipédia. Mais l'effet prozone existe seulement dans la dimension de la concentration de protomères. Il n'existe pas, évidemment, dans la dimension de l'affinité. Si vous incrémentez l'affinité du système, vous n'avez pas ce problème-là. Alors, ça vous dit déjà que s'il y a une régulation de ce système, on devrait attendre la régulation. On expecte que la régulation est dans la dimension de l'affinité et pas nécessairement de la concentration de protomères. Mais c'est intéressant de comparer ce système avec un système où vous avez pas une polymérisation, mais des agents qui sont multivalents. Parce qu'un polymère de taille 6, par exemple, pourrait être conceptuellement identique à un seul échafaudage avec 6 domaines de liaison entre A et 6 pour B. Et ça, c'est le noyau de toute la situation. Vous pouvez maintenant calculer exactement, avec des moyens différents, pas à travers les équations que je vous ai montrées, vous pouvez calculer dans une voie alternative exactement dans ce cas ici le potentiel catalytique d'une fois très simple. Et ça devient un produit de deux facteurs. Et c'est absolument incroyable, simple. Un facteur, en général, en fait, pour tous les échafaudages, vous pouvez calculer le potentiel catalytique, vous arrivez à une formule de cette façon, de cette de cette forme. Et une forme, c'est un produit de deux facteurs. Un facteur est le produit, soit même un produit de deux probabilités. C'est la probabilité que c'est la probabilité qu'un site. Alors, si vous avez des échafaudages, pour un moment, oubliez. Chaque échafaudage a un site pour lié A ou lié B. Oubliez le fait que les sites sont possédés par les échafaudages. Vous avez simplement une concentration de sites dans le système. Okay? Alors, si vous avez un échafaudage d'une concentration est d'un échafaudage avec 6 sites pour A, 6 sites pour B, vous avez une concentration de sites 6 par S. Okay? Alors, ça, c'est la probabilité qu'un site est occupé par un A. Ça, c'est la probabilité qu'un site est occupé par un B, indépendamment. Et ça, c'est simplement le maximal potentiel catalytique qui peut être achevé par un échafaudage. Alors, dans les cas de notre échafaudage de valence 6, ça serait 6 par 6, c'est 36. Okay? Alors, ce que ça dit, ce terme ici est un terme qui nous donne la probabilité que vous avez... c'est un terme qui ne dépend pas de la partition de sites sur de différents complexes. Parce que ça ne dépend pas... Ça, c'est le même terme si vous avez un échafaudage qui est multivalent ou le même nombre de sites organisés sur des polymères. Ça dépend seulement du nombre de sites, pas comme les sites sont partitionnés sur de différents objets. Et ça, c'est une quantité qui dépend seulement de la partition des sites sur des objets, mais pas de la cinétique de liaison. Alors, c'est un fait, c'est le proson, cet effet de facilitation suivi par un empêchement, c'est entièrement dû à le fait qu'il y a deux probabilités ici qui sont multipliées. Dans les cas de Michaelis-Menten, ça, c'est la probabilité. Ça, c'est le Qmax, c'est-à-dire le potentiel catalytique maximal, qui c'est le nombre des enzymes que vous avez. Et dans le Michaelis-Menten cas, il y a seulement une probabilité, mais pas deux probabilités, parce que vous avez une liaison directe, et alors vous n'avez pas de proson. Mais chaque fois que vous avez le proson est entièrement dû, et ça, c'est une expression analytique complètement générale pour tous les échafaudages. C'est très simple. Il semble comme si le système, tout ce que vous devez savoir, c'est le potentiel catalytique maximal, c'est-à-dire si tous les sites sont occupés, qu'est-ce que le système vous peut donner sur le sommet, multiplié par la probabilité qu'un site, que deux sites sont occupés. Un par un A et un par un B. Ça semble une chose qu'on devrait avoir intuit au début, mais toujours, même aujourd'hui, pour moi, c'est un peu une surprise que c'est si simple. Mais ça, c'est ce que la calculation exacte vous donne à la fin. On va finir la prochaine fois, mais ça, c'est exactement ce que je vous ai dit maintenant. Alors, on peut calculer ça pour le cas, le Qmax pour les polymères. C'est très facile à calculer parce que c'est pour chaque concentration d'un polymère de longueur n, chaque polymère de longueur n a le carré de n comme le potentiel catalytique maximal. On fait une somme sur toutes les concentrations, on arrive à une expression de ce type-là. Alors ça, c'est l'expression exacte pour le cas de polymères. Avant de vous laisser, donnez-moi deux minutes seulement pour vous donner la phénoménologie de cette système, brièvement. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? C'est un plot ou dans le log. Alors, c'est deux fois logarithmique. dans cette représentation, et ça c'est le potentiel catalytique, ça c'est le nombre de sites, ça c'est la concentration des sites. Alors dans ce cas, on peut comparer les échafauds multivalents avec le système qui se polymérise, parce qu'on les compare sur le nombre de sites, le même nombre de sites. Les systèmes multivalents, c'est simplement dans le log-log, ce sont cette courbe-là. Ça, c'est un monovalent, et ça, c'est, je crois que ça, c'est divalent. Okay? Alors, c'est un échafaudage qui a 10 sites pour A et 10 pour B. Ça, c'est un échafaudage qui a un site pour A, un site pour B. Et les autres courbes, la courbe rouge et orange, c'est le système de polymérisation. Alors, on peut analytiquement, c'est très facile à prouver que le slope, la pente de facilitation est 1, la pente d'empêchement c'est moins 1, mais vous voyez que ce qui se passe avec le système de polymérisation, cette plotte vous dit tout. Quand vous avez peu de sites, c'est-à-dire quand vous avez la concentration des sites dans les cas de la polymérisation, c'est exactement la concentration des monomères, parce que chaque monomère a un site. Alors, si vous avez peu de monomères, le système se comporte comme s'il était monovalent, parce que si vous avez peu de monomères, peu de protomères, il n'y a pas encore de polymérisation. Et nous discuterons la prochaine fois un peu les propriétés générales d'un système de polymérisation, qui sont bien connues, mais ils sont néanmoins intéressants à regarder encore. Alors, si vous avez peu de concentration de S, vous avez peu de polymérisation, il n'y a pas vraiment une différence entre un système polymérique et un système polyvalent, en particulier monovalent. Et chaque système multivalent, avec une valence plus de 1, fait mieux que le polymère. À un certain moment, le système polymérique commence à polymériser. Quand vous avez suffisamment de monomères, ça commence vraiment à polymériser. Et à ce moment-là, le pendant, c'est ça que vous avez ? La pente change de 1 à 2. Alors maintenant, vous avez une croissance de potentiel catalytique qui est beaucoup plus grande qu'un arbitraire système multivalent. Okay? Et quand ce changement s'effectue, dépend évidemment de l'affinité de polymérisation. Alors ça, c'est une affinité de polymérisation plus grande. Alors, d'autres fois, le collapse de l'empêchement de l'encontre entre les ligands est beaucoup plus atténué. Le collapse est beaucoup... En fait, la pente est à 1/2. Ça, c'est 1. C'est minus 1, et ça, c'est minus 1/2. Alors, ça, c'est une façon de traverser le proson effect complètement différente que dans les cas de protéines multivalentes. Et ça, c'est tout droit, ça se peut expliquer facilement avec les propriétés de la polymérisation, et nous ferons ça la prochaine fois. Merci.